CFM, le mag. Tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Johan pour le mag de CFM Kailus. On est ensemble jusqu'à la demi. Je ne voudrais pas vous plomber l'ambiance, mais aujourd'hui, l'invité que nous allons avoir, d'ailleurs ils sont deux, il y a Jean Judiac, qui est l'auteur de Récits Kabylie 1956-1958, et la seconde, c'est Anne Castan, qui est une amie de Jean Judiac, qui, à sa place, considère que l'œuvre écrite et éditée tout récemment, là ça date du mois de décembre, mérite d'être diffusé. Alors les 50 premiers exemplaires sont partis comme des petits pains, bien entendu. L'argent collecté a permis de rééditer et Anne Castan vient présenter cet ouvrage demain soir à la Soupe aux Livres, 28 Faubourg La Capelle, à 18h. C'est à Montauban. Et Jean Judiac l'a accompagné en disant que lui ne parlerait pas, que c'était pas son truc et que c'était pas un sujet porteur, vendeur, et que bon, ouais, il est pas là pour vendre, lui, bien sûr. Ceci dit, la diffusion passe aussi par la vente. Et la diffusion de ses textes est très importante. Ce sont des poèmes qu'il a écrits qui exposent les scènes dont il a été témoin entre 1956 et 1958, dans ce qu'on n'appelait pas encore la guerre à l'Algérie. On parlait de troubles, on parlait d'événements. Mais lui a été témoin de scènes de torture, de destruction de villages entiers. Quand il en parle, il dit « ce sont des oradours sur glane ». C'est un sujet grave. Pourtant, on arrive à en parler de façon détendue avec Anne Castan, qui est la fille de Félix au passage, hein, je vous le dis, et Jean Judiac, qui a bien voulu quand même répondre à quelques questions. On fait un petit détour dans la boîte à musique et on est avec eux.
Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feeling groovy. Da-da-da-da-da-da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Nous recevons maintenant Anne Castan. Anne Castan qui va venir faire une présentation d'un ouvrage à la Soupe aux Livres, 28 Faubourg La Capelle à Montauban, c'est vendredi à 18h, et c'est un ouvrage signé Jean Judiac. Alors Jean Judiac a écrit des récits souvenirs de Kabylie entre 1956 et 1958, c'est pas une époque où on allait faire du tourisme, manifestement, et s'il avait eu le choix, il y serait pas allé, je pense. Jean Judiac est aussi dans les studios, peut-être qu'il interviendra, mais le moins possible. Bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour Anne.
Bonjour Jean.
Alors, Jean Judiac a eu un hommage pour l'ensemble de son œuvre réalisée mi-décembre à la Cave Poésie de Toulouse. Il s'est rendu compte lui-même que non seulement il était toujours vivant, mais qu'en plus il avait beaucoup d'importance pour, on va dire, le monde du théâtre, pour aller vite. Hein, qu'il soit metteur en scène, décorateur, écrivain, auteur, scénariste, ils sont tous venus. Bon, alors le Jean Judiac que tous ses copains appellent Juju était là un peu sidéré en disant « Et qui c'est celui-là ? Et il me connaît ? Et pourquoi il dit du bien de moi ? Et c'est bizarre ?» C'est un peu comme ça qu'il réagit, Juju. Mais bon, Anne va nous présenter quand même ses récits de Kabylie, parce que, en tant que, comment on va dire, amoureuse des mots qui envoient des images, elle considère comme très important que ce texte existe. Alors, ce texte existait depuis les premiers jours en Kabylie, dans un cahier, si je me souviens bien, et ce cahier n'a pas pu traverser la Méditerranée avec le Jean Juliac libéré. C'est comme ça qu'on disait, hein, quand on avait fini son service militaire, qui à l'époque était de 2 ans. Alors Jean Juliac était instituteur à l'époque. Bon, mettons de freiner, hein, il le rappelle tout de suite, faut pas déconner. Hein. Jean Juliac est né le 16 juillet 1931 à Mérignac, dans le Bordelais, d'un père facteur, d'une mère femme au foyer. Il est l'aîné de 3 enfants. C'est ça qu'on dit dans les éléments biographiques au début du récit, histoire de situer le personnage qui, à 20 ans, adhère au Parti communiste français. Mais oui, enfin, c'est écrit en tout cas. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec votre biographie, dites-nous-le tout de suite. Hein. Alors, bac philo et diplôme des beaux-arts. On s'apercevra que la philosophie, comme la création artistique, est quelque chose qui va le suivre tout au long de sa carrière, parce que de retour de Kabylie. Et en 1964, il intègre la troupe du Grenier de Toulouse, où il est à la fois comédien, décorateur et metteur en scène. Et depuis 1964, il n'a pas arrêté le théâtre, en passant par, évidemment, Sorano, en écrivant, en mettant en scène avec Armand Gatti, enfin une série de gens dont on va parler quand même tout au long de cette émission. Mais l'événement central qui sera présenté vendredi 17 à 18h à la Soupe aux Livres, 28 Faubourg-la-Capelle à Montauban, ce sont les récits de Kabylie. Ces récits de Kabylie, Anne Castan, vous allez devoir répondre à des questions vendredi.
Et si elles sont posées, j'y répondrai, si je peux.
Alors vous connaissez ces textes sous quelle forme au départ?
Alors c'est une forme, quand
Juju
a fini la rédaction de ces textes, qu'il a considéré le manuscrit terminé, il l'a fait lire aux gens qui étaient proches de lui, à ses amis, à sa famille, enfin bon. Et j'ai fait partie des gens qui l'ont lu donc en 2001. Ce texte m'a beaucoup frappée, je l'ai lu comme ça le soir même. Et il m'a frappée, c'est pour ça que j'ai toujours porté de l'attention, par le mode d'écriture qui est employé, qui est à la fois une écriture très très simple, avec une économie de mots au maximum, et c'est en fait un petit miracle, étant donné le sujet. Écrire sur la torture en Algérie n'a rien de très facile, c'est pas un sujet qui se prête vraiment bien à l'écriture, le témoignage, soit est romancé, soit on pleure, soit enfin, on tombe très facilement dans des défauts littéraires, hein, des défauts d'écriture. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est un véritable tour de force, d'équilibre entre l'écriture, entre l'histoire en fait, hein, la grande histoire. Et moi, j'appelle ça. Il faudrait employer cette formule du chant espagnol, du chant des gitans, le cante rondo, le chant profond, le chant de l'âme. Et pour moi, c'est un petit miracle, de ce point de vue-là. Ensuite, le témoignage est effectivement un réel témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a
ressenti
et qu'il habite encore, hein, de cette horreur qu'il habite encore.
Comment être arrivé à réécrire dans les souvenirs quelque chose qui était pris au jour le jour, qui était souvent illustré de dessins d'ailleurs?
Oui, mais pendant tout le service militaire, 28 mois, j'ai témoigné par l'écrit et par le dessin. Bon, je sortais des beaux-arts, pratiquement, à l'époque. Bon, et tout ça était dans ma valise au moment de la quille, c'est-à-dire au moment du départ, de la libération, de rentrer à la maison. Donc j'ai tourné autour du paquet là, d'écrits et de dessinés. J'ai pas réfléchi trop longtemps. Et j'ai pensé que ça servirait à rien du tout. Donc, j'ai tout brûlé entre deux rochers, voilà. Alors, comment j'ai fait pour me souvenir et pouvoir réécrire, oui, à partir du souvenir, ces récits? j'avais laissé dans ma valise, sans le faire exprès, une dizaine de feuilles parmi les linges, tout ça, bon. Et j'ai retrouvé ça chez moi, mais pas tout de suite d'ailleurs, au bout de, je sais pas, carrément 2 mois ou 3 mois, je sais plus. J'ai retrouvé ces feuilles. Et ces feuilles contenaient quelques récits, mais des récits rapides, des choses pour s'amuser avec les copains. Voilà, bon. Et des dessins, quelques dessins, avec ce que j'appelle, ou qu'on appelle, le calvaire du soldat. C'est un dessin qui symbolise l'armée et la réaction à l'armée. Et ce dessin est fait de petits carreaux comme de la faïence. Il représente un animal terrible, méchant, une brute sans tête. C'est l'armée qui est en train d'être à genoux, écrasée, par l'espoir de la quitter et de rentrer à la maison. Et cet espoir de rentrer, ainsi que l'armée elle-même représentée, c'est fait avec des petites mosaïques, des petits carreaux. Et chaque carreau est un jour. Donc, c'est très facile de retrouver exactement, au jour le jour, l'endroit où je suis, le mois, la date. Et donc, je peux, grâce à ça, remettre en place une chronologie correcte et la vraie. Voilà. Donc, ça me permet de remonter dans la mémoire avec suffisamment de précision pour ne pas trahir ce que j'avais écrit à l'époque, bien que ça ne soit pas les mêmes mots de la même façon. Et bon, c'est un souvenir. Mais il dit bien ce qui s'est passé réellement. Voilà. Avec le plus de simplicité possible, en essayant de ne pas trop ou de ne pas du tout faire pleurer ou rire, mais en décrivant avec précision presque ce qui se passe. Voilà, c'est ça, les récits de Kabylie, c'est ça.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge. Quand on t'a dit, rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste.
Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes. Parachutiste. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites.
Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille,
pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste.
Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre.
Oh non, plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire?
C'est fini le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, commandé à ceux qui savent lire.
Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot
antimilitariste.
Parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on ne tire plus vraiment, tu trouves ça fade.
C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste.
mais c'était vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire. Tu peux toujours te recycler chez tes petits frères.
Je crois qu'on engage dans la police, ah, parachutiste.
Antidiramatiste ?
Non, non, antimilitariste.
CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
On est avec Jean Judiac, Anne Castan, on parle des récits de Kabylie, édités à faible exemplaire d'ailleurs par Jean Judiac, une cinquantaine d'exemplaires. Le but du jeu, c'est de les vendre, en faisant une présentation vendredi 17 à 18h à la Soupe aux Livres, de façon à pouvoir continuer à éditer, puisque c'est édité de façon numérique, hein, on n'est pas obligé de faire le gros tirage, et puis d'avoir au pilon après, hein, autant que ça parte à ceux qui les intéressent. Au niveau de l'écriture de ces récits, le contenu nous en dit beaucoup sur le devoir de mémoire qui n'est pas encore vraiment mis à jour sur ce que la France a fait en Algérie, et en particulier les gars qui étaient envoyés avec des uniformes à leur corps défendant quelquefois pour aller, comment on disait, nettoyer, faire des opérations de maintien de l'ordre. Enfin, il y avait de doux euphémismes qui se traduisaient quelquefois par des sauts en hélicoptère de quelqu'un qui voulait rien dire, voire même de ce qu'on appelait encore un euphémisme des corvées de bois, et effectivement des nettoyages de villages, comme on ne voulait pas se faire tirer dessus, et ben on envoyait d'abord une grenade, et après on demandait s'il y avait quelqu'un... bon. Tout ça, Jean Judiac en a été témoin, il l'a écrit, quelquefois il a dessiné d'ailleurs des choses assez remarquables, telles qu'il en parle en tout cas, mais on n'a plus ses dessins. Alors la mémoire ne permet pas de redessiner.
Mais non, je serais obligé de réinventer, mais à ce moment-là, il faudrait pas que le dessin soit complètement réaliste. Il faut qu'il reste la traduction d'une pensée, d'un souvenir. Voilà, en étant respectueux du souvenir, bien sûr.
Il y a une colère qui sourd de ces récits de Kabylie, qui se voit dans le choix des mots. Est-ce que à dire ces textes-là, faudrait un ton particulier ? Je m'adresse au théâtreux, là.
Oui. Un ton particulier, non, je pense pas. Il faut, essayer. Il faut presque essayer d'oublier tout ce qui est théâtral, tout ce qui est l'art du théâtre, bien sûr. Ce sont des récits d'une réalité suffocante. Il n'est pas besoin d'exagérer, quoi. D'employer la technique du comédien. Il faut essayer d'être, au contraire, très, très simple, très, très présent, très réaliste, mais, comment dire, sans un air majuscule, hein. Un réaliste quotidien. Voilà. Bon, il faut essayer de dire comme ça. C'est pas toujours très simple. Moi-même, je me fais attraper puisque j'ai fait des lectures en public de ces textes. Et à certains moments, par l'image et par le récit, par ce dont il était question, qui, moi, me revenait avec l'image. Ceux qui écoutaient, non, n'avaient pas l'image, mais moi, oui. Et la lecture que je faisais de ce texte, je suffoquais, j'ai perdu la respiration, donc, hop, je m'arrêtais, et puis je me tranquillisais, et je continuais le plus tranquille possible, voilà.
Jean Judiac, 83 ans, aux fraises. Anne Castan, pas tout à fait de la même génération. Pourquoi Anne s'y collait à promouvoir ça là, à Montauban ? Vous allez faire des lectures ou pas du tout, vendredi ?
Juju, on se connaît depuis 1974, depuis la première fois que je l'ai vu.
40 ans.
C'était à Montauban, au moment où André Benedetto montait le siège de Montauban, sa pièce, sa grande pièce sur le Montauban. Ils étaient très amis.
Mais vous avez fait les 400 coups ensemble, du coup.
Ils étaient très amis, et Juju était venu par hasard, d'ailleurs, là. Il jouait pas dans la pièce, il était venu voir André. C'est la première fois que je l'ai vu. Et on s'est toujours revus. Moi, j'ai vécu à Toulouse plus de 20 ans, j'avais un restaurant, j'ai eu un bistrot à vin, etc., des lieux publics où Juju passait, où on pouvait discuter assez souvent. Voilà. Pourquoi je me retrouve en situation un peu proche de ce livre ?
C'était ma question.
Voilà, pourquoi Donc en 2001, Juju me le fait lire. Et pendant donc 12 ans, il l'a traîné sur dans ma bibliothèque. Et voilà, et un jour, je l'ai fait lire par hasard à quelqu'un qui s'appelle Jacques Larocque, qui habite Montauban, qui est un restaurateur, hein, il n'est pas du tout éditeur, mais qui a une immense amitié pour Jean Juillac, beaucoup d'admiration d'ailleurs. Il a travaillé avec lui au décor quand il était étudiant.
Oui, on l'a pas dit, mais ce qui aurait marqué sur la caisse de retraite de Jean Juillac, c'est quand même décorateur. Parce que c'est le plus gros de son activité, quand même, voilà. Mine de rien.
Tout à fait. Et donc, en parlant, par hasard, je lui ai dit, tu as jamais lu ce manuscrit de Juju, c'est magnifique. Donc, il est parti avec. Et 15 jours après, quand j'ai revu, il m'a dit, là, il faut faire quelque chose. On fait imprimer, il faut que ça soit lu. Et donc, ça s'est fait comme ça. C'est une graphiste qui a travaillé bénévolement, qui a fait la mise en page. Jacques Larocque qui a payé l'imprimeur pour que 50 exemplaires soient publiés. Et donc, porté au jour, quoi, et que le texte voit le jour. Donc, je suis là entre deux amis, Jacques Larocque et Jean Juillac. Et j'ai aidé, moi, à rédiger un peu la biographie, à faire le lien entre tout le monde. Voilà.
Pour donner un avant-goût quand même pour ceux qui viendraient vendredi à la soupe aux livres à Montauban, peut-être la lecture du premier texte, il sera.
Ce texte est écrit pour s'échapper de l'horreur, voilà, et qu'elle ne revienne jamais. C'est ça le problème. Alors, ça, c'est pas complètement la torture et le récit, si vous voulez. C'est un préparatoire. À recevoir quelque chose de dur et faire en sorte de donner l'idée que puisse être un jour un monde sans la guerre, sans la brutalité, sans la sauvagerie, sans... Non. Avec un autre moyen, plus intelligent, avec la pensée, l'intelligence, voilà. On peut faire autre chose que du militarisme, pour ne pas dire du fascisme. Voilà.
Il sera encore anthropophage, l'humanité vomira ses tendances animales ou infantiles, les solutions finales expéditives, le devoir d'efficacité, la détermination après la décision, la rapidité d'exécution, le choix permanent de la solution la plus simple, élimination de l'énoncé, évacuation du problème, le terrorisme. Abattre tous les terrorismes. La misère, supprimer les miséreux. La pauvreté, laisser les pauvres mourir de faim ou d'épidémie provoquée ou d'un magistral coup de balai. Jeter les cadavres dans la poubelle sans fond de l'oubli, éradiquer. Elle vomira l'humanité et la chair vivifiée, elle sera.
C'est presque optimiste par rapport aux autres récits.
C'est fatal, puisque c'est l'arrachement. À l'horreur, à la pourriture, à tout ça, c'est cet arrachement que j'y tiens très fort, bien sûr. La continuité de la vie, voilà. Le dernier écrit est du même type aussi. Il est écrit pareil, c'est-à-dire qu'à la fin, on reprend le train pour faire mieux, pas plus mal.
Ça se termine tout ça presque par deux citations de répliques. Estragon. Si on se levait pour commencer, Vladimir, essayons toujours. Il se lève, Estragon. Pas plus difficile que ça. Vladimir, vouloir, tout est là.
Oui, ça c'est une citation de Samuel Beckett à la fin de En attendant Godot. Vouloir, tout est là. Tout ça pour conclure le bouquin et pouvoir dire que si l'on veut que l'humanité se porte bien et qu'elle aille sur un chemin le plus correct possible, en étant le plus humain possible, si l'on veut le faire, il faut vouloir. Voilà. Il faut vouloir, il suffit de vouloir.
C'est une belle conclusion. En tout cas, on peut rencontrer Anne Castan qui présentera ses textes, ses récits de Kabylie 1956-1958 avec l'auteur Jean Juillac qui sera à la soupe aux livres au 28 Faubourg-la-Capelle vendredi 17 à 18h. Merci beaucoup, Anne. Merci, Jean.
Merci, Jean.
À bientôt.
Le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez de bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM.
Yeah.